Alors, le regard de l'anatomie, c'est une expression que j'emprunte à Raphaël Mandrécy, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le regard de l'anatomiste, dissection et invention du corps en Occident, qui dit ceci: Les anatomistes débarquent sur le corps humain, mus par le dessein d'exposer au grand jour ses secrets. Ils redessinent sa carte, dressent une toponymie et fixent, ce faisant, une topographie nouvelle. Ils redécouvrent, en somme, en soumettant le corps à une mise en morceaux. Et un peu plus loin, l'anatomie est porteuse d'un projet de fragmentation auquel ses instruments, sa démarche concrète ne sont pas étrangers et qui finira par défaire la compréhension du corps en termes unitaires. Donc, lorsqu'il définit le regard de l'anatomiste, Raphaël Mandrécy l'associe à un projet de fragmentation aboutissant à ce qu'il appelle une topographie nouvelle. Arpenter le corps en le soumettant à une mise en morceaux, selon son expression, c'est alors permettre sa redécouverte, mais également, je le cite toujours, défaire la compréhension du corps en termes unitaires. Alors, en prenant pour fil directeur cette définition du regard de l'anatomiste, je souhaiterais envisager l'herméneutique du corps fragmentaire qui traverse le XIXe siècle à l'aune d'un seul et même imaginaire, celui de l'analyse, au sens où Michel Foucault l'entend dans l'essence de la clinique. Michel Foucault qui fait un parallèle entre la mort et l'analyse. Il dit que la mort, c'est la grande analyste qui montre les connexions en les dépliant et fait éclater les merveilles de la genèse dans la rigueur de la décomposition. Et il continue en disant: Il faut laisser le mot de décomposition trébucher dans la lourdeur de son sens. L'analyse, philosophie des éléments et de leurs lois, trouve dans la mort ce qu'en vain elle avait cherché dans les mathématiques, dans la chimie, dans le langage même, un indépassable modèle est prescrit par la nature. Sur ce grand exemple, le regard médical va désormais s'appuyer. Donc, au prisme de l'analyse, tel que Michel Foucault l'entend, de deux manières, je voudrais l'envisager donc de deux manières, dans une perspective diachronique d'abord, afin de montrer les conséquences de la reprise par la littérature du modèle clinique du regard perçant, qui est une singulière métaphore désignant le regard de l'anatomiste et par analogie celui de l'aliéniste. Alors, singulière métaphore, c'est une expression utilisée par Esquirol, qui est le fondateur de la. Enfin, le disciple de Pinel, qui est le fondateur de la psychiatrie, il utilise cette expression à propos de Francis Willis, qui était le médecin de Georges III. Et Juan Rigoli, dans son ouvrage qui s'appelle Lire le délire, met en lumière l'importance de cette singulière métaphore dans en particulier un chapitre qui s'appelle La folie à livre ouvert. Donc le regard perçant est cette métaphore qui a permis de construire l'aliénisme par référence à l'anatomie. Alors, dans une perspective diachronique d'abord, donc, puis dans une perspective synchronique, en me focalisant de manière plus précise sur ce que l'on pourrait nommer l'optique fétichiste de la littérature fin de siècle. Optique fétichiste qui pervertit le pouvoir analytique du regard de l'anatomiste sans pour autant sortir de la visée clinique. La visée clinique, c'est décomposer pour comprendre. Donc voilà deux points. Alors le premier point, on pourrait l'intituler, enfin, articule regard clinique et poétique du fragment, c'est une perspective donc diachronique. Alors lorsque Michel Foucault analyse la naissance de la clinique au tournant des 18e et 19e siècles, il la relie à l'émergence de ce qu'il appelle une nouvelle découpe des choses. Or, une telle perspective permet d'interroger l'impact de la clinique sur la littérature, au-delà de la réutilisation d'un vocabulaire spécifique, d'un principe d'organisation, le tableau clinique, ou d'une réserve de patrons descriptifs, c'est-à-dire les types pathologiques, les maladies. Si l'on définit la clinique comme une forme de manifestation des choses dans leur vérité, c'est l'expression de Foucault. Il dit que c'est aussi une forme d'initiation à la vérité des choses. La clinique, définie de la sorte, consacre un regard qui équivaut à un savoir. Pour Michel Foucault, savoir voir ou savoir regarder, c'est comprendre et expliquer. C'est là l'innovation du regard clinique. Alors, cette optique analytique portée par la clinique passe rapidement dans une littérature qui est majoritairement romanesque. Et une littérature qui reprend le topos du regard perçant pour en faire le symbole d'une clairvoyance intransigeante, capable de faire parler les détails. Que ce soit chez Balzac, on connaît Horace Bianchon, que ce soit chez les Goncourt, la clinique de l'amour évoquée dans la préface de Germinie Lacerteux, ou bien chez Flaubert, à sa fameuse écriture au scalpel, selon Sainte-Beuve, ou même chez Zola, si on pense au docteur Pascal ou encore au docteur Beauclerc, qui est le médecin de Lourdes, qui prévoit la destinée de l'hystérique Marie qui voit ce qui va se passer. Eh bien, chez tous ces auteurs, donc, le regard clinique constitue autant une métaphore de l'art du romancier que le vecteur du savoir à l'œuvre. L'optique clinique renvoie en premier lieu à une manière de regarder le réel et de faire parler ce que tout le monde voit sans le voir, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, faire parler tout ce que tout le monde voit sans le voir. Donc ce regard clinique offre au romancier le modèle d'une description éloquente, en mobilisant finalement moins un savoir qu'un savoir-faire. Ce savoir-faire envoie en premier lieu à un art du déchiffrement qui érige le signe en idéal épistémologique. Il se traduit, comme l'a montré Jean-Louis Cabanès, par l'élaboration d'une véritable symptomatologie littéraire qui exploite le pouvoir figuratif des traités médicaux. Par exemple, les pointes blanchâtres, pareilles à des yeux d'écrevisse dans La joie de vivre, qui est une description imagée des stigmates de la goutte que Zola emprunte au docteur Alfred Garraud. Ça, c'est ce que montre Jean-Louis Cabanès, c'est un exemple parmi d'autres. Donc Zola emprunte cette image, des yeux d'écrevisse, mais en lui donnant l'envergure d'un réseau métaphorique. Le corps de Chantot, le goutteux, est pareil à la mer attaquée par les falaises, et le mal dont il est victime érode son corps, qui apparaît comme Chantot apparaît comme un homme progressivement minéralisé. C'est ce que montre Jean-Louis Cabanès. Le symptôme peut devenir, on le voit, non plus un signe, mais un trope, pouvant prendre l'ampleur de l'allégorie. C'est le cas dans La joie de vivre. Alors, conformément à l'esthétique du blason, le fragment du corps est donc ce qui permet d'élaborer un système de signification plus global. Il devient l'indice, par excellence, d'une percée à jour, que celle-ci prenne la forme d'une lecture physiognomonique, comme chez Balzac, ou d'une nosographie focalisée sur les manifestations symptomatiques, comme chez les naturalistes au sens large, même plus largement les écrivains qui se revendiquent comme les Goncourt des études et les devoirs de la science, pour reprendre une formule de Germinie Lacerteux, la préface. L'analyse du corps par fragments a alors pour fonction de mettre en relation la partie et le tout, d'articuler le détail a priori insignifiant à une signifiance. Alors ce statut particulier du détail permet de comprendre la fonction centrale de la description dans de nombreux récits qui mobilisent une optique clinique. Une telle optique lie en effet étroitement le descriptif au narratif, puisque, pour reprendre la formule de Foucault, le signe annonce, pronostique ce qui va se passer, anamnestique ce qui est passé, diagnostique ce qui se déroule actuellement. Alors, de Balzac à Zola, la nosographie constitue ainsi un moment clé du récit, parce que la nosographie participe de l'action en cours, voire de l'intrigue générale, si le cas est le personnage principal, tout en ayant pour point de référence le tableau clinique. Alors, autrement dit, la nosographie propose le modèle d'une description dynamique, car fondamentalement diégétique. Un exemple célèbre, c'est Horace Bianchon, qui prévoit la crise d'apoplexie du père Goriot, le père Goriot, en se contentant simplement d'examiner la figure du vermicellier. Alors, je lis ce court passage. Qu'a-t-il ? Il s'agit du père Goriot. Qu'a-t-il ? Demanda Rastignac. À moins que je ne me trompe, il est flambé. C'est Bianchon qui parle. Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui. Il me semble être sous le poids d'une apoplexie séreuse imminente. Quoique le bas de la figure soit assez calme, les traits supérieurs du visage se tirent vers le front malgré lui. Vois. Puis, les yeux sont dans l'état particulier qui dénote l'invasion du sérum dans le cerveau. Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins d'une poussière fine ? Demain matin, j'en saurai davantage. Alors là, on voit que le regard clinique est un regard qui raconte autant qu'il décrit. Le cheminement qu'il indique mobilise le paradigme de l'indice en l'associant à l'hypotypose. « Voix », dit-il à Rastignac. Hypotypose qui devient pour l'occasion la figure de la transformation du symptôme en signe. Puisque ce que la description nous amène à voir, ce n'est pas tant le bas de la figure ou les traits supérieurs du visage que ce que ces symptômes traduisent, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, dit Bianchon, c'est ce qu'ils traduisent, et ce qu'ils annoncent, c'est la mort. Alors, pour qui épouse l'optique clinique, observer les détails, c'est donc raconter, ça n'est pas que décrire. La description clinique suscite un avant, l'étiologie, et un après, le pronostic, puisque le symptôme ne prend sens et ne devient signe qu'intégré à une histoire. Cette histoire, c'est celle de la maladie et du cas qui l'illustre ou la contrarie. Le paradigme indiciaire articule donc enquête et fiction, description et narration, mais aussi étiologie et fatum. C'est le cas dans les romans qui font de la parole médicale le point d'arrivée de la démonstration et voient dans la nosographie un discours édifiant. Mais cette fatalité est plus globalement au service d'une dramatisation dont le fragment corporel est le levier principal. Dans La Marquise de Sade de Rachid, Rachid fait ainsi cohabiter ironiquement perspicacité clinique et aveuglement amoureux. Le savant Célestin Barbe, qui est le tuteur de l'héroïne, la Marquise de Sade, c'est son surnom, donc le savant Célestin Barbe est irrémédiablement attiré par le pouce démesurément long de la jeune femme, identique à celui d'un assassin dont il conserve le bras momifié. Alors ce pouce long fait allusion au cas Tropman, qui est l'auteur des Crimes de Pantin, qui a un pouce aussi long que les autres doigts. Donc, il est attiré par le pouce très long de sa pupille, et de cette attirance déplacée pour la pièce anatomique, le savant ne sait que faire, puisqu'il est incapable d'interpréter son obsession et d'y lire son attirance trouble pour sa pupille et le danger qu'elle représente. Alors, je cite un passage du texte. Elle lui semblait une autre créature depuis la découverte de son pouce. Il lui venait le désir de l'étudier de plus près. Comment diable avait-elle le pouce aussi long que celui d'un assassin ? Il se penche sur Marie comme sur sa Vénus anatomique. Il finira écrasé dans une scène d'explosion par cette Vénus anatomique. Donc il se penche sur Marie, c'est-à-dire la marquise de Sade, comme sur sa Vénus anatomique. Et finalement, le savant prend trop tardivement conscience de la signification réelle de ce signe morphologique, puisque son intérêt pour Marie ne sera plus clinique. Voilà ce que un extrait d'un dialogue un peu plus tard. Voilà ce qu'il dit à Marie. « Vous avez la monomanie des cruautés. Ah, ce pouce long et mince, il est l'indice absolu. » Et un peu plus loin, voilà la réponse de Marie. « Ah, vous savez, mon cher docteur, qu'il est dangereux pour vous d'examiner les défauts de ma personne. » Allusion à un passage où, effectivement, il se penche sur elle, il lui apprend des planches anatomiques, mais on sent qu'à travers ces planches anatomiques montrées à sa pupille, il y a un autre désir qu'un désir de savoir qui passe. Alors ce statut d'indice absolu du pouce confirme ici le pouvoir de signification du fragment corporel, tout en le déconnectant d'une réelle possibilité d'interprétation. Il est en quelque sorte absolutisé, mais le détail, en étant absolutisé, il fait écran au tout, et il devient l'emblème de la myopie amoureuse du savant. Alors, ce qui m'amène à mon deuxième point, plus concentré sur la fin du siècle, qui vise à interroger le lien entre l'optique fétichiste et ce qu'on pourrait appeler la crise de l'analyse. Alors le fonctionnement dont je viens de parler, de cet indice qui signifie mais qui en même temps fait écran au tout, ce fonctionnement évoque bien entendu celui du fétichisme qui devient à la fin du siècle une catégorie nosologique. Alors le fétichisme est défini par Richard von Krafft-Ebing dans Psychopathia Sexualis comme ce qui exerce, je le cite dans la traduction française, qui date de 1886. Donc il définit le fétichisme de la manière suivante. C'est une sorte de charme que n'explique nullement la valeur ni la qualité intrinsèque de l'objet symbolique. Donc le fétiche renvoie à un fait physiologique constitué en loi érotique, pour Krafft-Ebing. Binet. Oui, c'est Binet. Binet va lui dire, il va travailler sur le fétichisme, donc c'est un proche de Charcot qui va travailler sur le fétichisme dans en même temps que Krafft-Ebing, c'est en 1887. Binet va dire que tout le monde est plus ou moins fétichiste en amour, même s'il prend soin de préciser qu'il existe néanmoins, je le cite, un grand et un petit fétichisme, à l'instar de la grande et de la petite hystérie. La petite hystérie, c'est celle de toutes les femmes. La grande hystérie, c'est l'hystérie pathologique de la salpêtrière. Donc le fétichisme, c'est aussi une loi physiologique, une loi amoureuse, mais ça peut devenir évidemment une maladie. Alors dans la littérature fin de siècle, le blason amoureux va prendre une coloration très nettement morbide, au point parfois de se confondre avec le morceau anatomique. Alfred Binet prend d'ailleurs ces exemples dans la littérature. Il cite Adolphe Belot, qui est l'auteur de La bouche de Madame X, qu'il cite, hein, et il fait par exemple de la vénération de Madame X un symptôme fétichiste. La bouche, qui, il cite d'ailleurs Adolphe Belot, qui signifie pour le personnage un tout, un ensemble composé des lèvres, des dents, des gencives, de la langue et du palais. C'est une citation du roman. Alors l'amant fin de siècle, qui est adepte du bibelot et de l'off-meat, hein, comme chez Huysmans, l'amant fin de siècle substitue donc avec plaisir la partie au tout. Comme l'aliéné de la chevelure ou l'idéaliste d'un cas de divorce, de Nouvelles de Maupassant. L'idéaliste d'un cas de divorce dont la passion pour les fleurs témoigne du même cheminement pathologique que le fou de la chevelure, puisque sa passion le conduit finalement à renouer de manière proprement fétichiste avec, je le cite, hein, la chair, fumier séduisant et vivant, qu'il entendait fuir, cette chair, donc, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle, un cas de divorce, donc c'est un avocat qui plaide la cause d'une femme qui veut divorcer, et donc on a ensuite le journal de l'homme qui est mis en cause. Donc cet homme est un idéaliste, comme il y en a beaucoup chez Maupassant, mais les idéalistes sont à la fin du siècle non plus des romantiques, ils sont forcément des fétichistes. Et donc cet idéaliste tombe amoureux d'une femme, et évidemment après l'amour, l'animal est triste, et donc il est finalement très déçu, et il va tourner cette passion idéaliste vers ses fleurs, les cultiver en serre, mais en cultivant ses serres, il va retrouver la même dimension charnelle, sauf que là elle va être idéalisée, mais en étant idéalisée elle va devenir pathologique. Donc il veut fuir cette chair incarnée par cette femme, par sa femme, mais il va retrouver cette chair, fumier séduisant et vivant, en faisant de ses serres des harems, il y a l'expression dans le texte, où il peut pétrir pour son plaisir exclusif la gorge, il y a cette expression, la bouche mystérieuse, et je cite toujours, les organes délicats, admirables et sacrés de ces divines petites créatures qui sentent bon et ne parlent pas, ce sont les fleurs. Donc la femme est prise dans un devenir bibelot à la fin du siècle, c'est une expression de Bernard Vouilloux à propos du traitement de la femme chez les Goncourt. Cette femme est prise dans un devenir bibelot, et cette femme n'est bien à la fin du siècle qu'un objet, mais un objet fétichisé. Le blason amoureux est alors à l'image du regard désirant qui le forge, un regard fragmentaire plus que furteur, qui traduit un érotisme devenu essentiellement vénérien, tant l'amour semble constituer un état pathologique. C'est d'ailleurs une question que pose Gaston d'Anville dans la revue philosophique en 1893. Sa question, c'est: l'amour est-il un état pathologique? Et sa réponse est oui. Fétichisent donc la plupart des amants de la fin du siècle, qu'ils soient des amants des yeux, de la main, des cheveux ou de toute autre partie du corps, dès lors que cette partie plaît en proportion de sa morbidité. De nombreux exemples, hein, le regard qui hante le duc de Fréneuse est glauque et verdâtre dans Monsieur de Focas, la bouche de sang qui fascine l'amant des poitrinaires chez Lorrain est aussi morbide, le moulage de la main adultère qui est conservé pieusement par le mari assassin d'Henri Lavedan dans une nouvelle qui s'appelle La Main. Fétichiste également la tête de femme conservée par le comte Boris Zagoureff chez Richepin dans une nouvelle qui s'appelle Le Coffre Rouge, ou autre nouvelle, hein, et autre tête conservée par le docteur Deville dans une nouvelle de Carolus Daran qui s'appelle La Tête Coupée. Bref, vous avez énormément d'exemples, hein, de cet amour fétichisé. Puisque la femme, des pieds à la tête faite pour l'amour, selon l'expression de Mireille Dautin-Orsini, la femme semble, dans l'érotique fin de siècle, ne pouvoir s'offrir que par morceaux. Alors pourquoi? Eh bien, c'est assez simple, puisque selon Otto Weninger, elle est, je le cite, dans la traduction française, un être qui pratique le coït par tout le corps. Et donc elle peut également être, je cite toujours, fécondée par tout et de toutes les façons. Donc la femme nourrit par nature toutes les déviances métonymiques, puisqu'elle est essentiellement sexe, mais sexe disséminé dans tout son corps. Salomé, la figure de Salomé que Guy Ducré compare à une coupeuse de corps, donc dans sa thèse qui s'appelle Corps et graphie, Salomé, la coupeuse de corps, je le cite, à qui l'on ne se lasserait pas d'imposer par vengeance le talion d'une dislocation dans les textes, Salomé donc est bien l'idole fin de siècle d'un érotisme fragmentaire. Elle est conçue sur le modèle de la lorgnette, c'est ce que montre Guy Ducré, qui prélève sur le corps des morceaux désirables et les érige en motifs emblématiques et privilégiés, c'est toujours Guy Ducré qui le démontre, en parlant d'écriture saloméenne à propos de cette écriture fragmentaire qui caractérise la fin du siècle. Et cette écriture saloméenne de la fin du siècle est également, et peut-être avant tout, une écriture fétichiste, qui prélève des morceaux désirables. Alors cette écriture fétichiste ne se contente concrétise cependant pas uniquement par une érotisation du regard de l'anatomiste. Elle correspond plus globalement à une forme d'esthétisation de l'optique clinique qui suppose son émancipation vis-à-vis de ses enjeux herméneutiques. Il ne s'agit plus de voir pour savoir, en somme, mais de voir pour voir. La pulsion scopique est dans ce cadre une des grandes orientations que prend l'optique clinique à la fin du XIXe siècle, mais elle n'est finalement qu'un cas de figure du plus vaste déraillement de la signification dont le regard de l'anatomiste est devenu l'instrument de mise en œuvre. L'optique fétichiste participe en effet de l'invention d'un corps fantastique, qui ne repose plus sur le surnaturel ou la chimère, mais qui repose sur l'anatomie et la monstruosité qui lui serait inhérente. Dans ce type de fantastique fin de siècle, le fragment scruté constitue moins une aporie pour la raison scientifique qu'un douloureux dévoilement brouillant les catégories et les certitudes, puisque le territoire redécouvert est moins celui d'une exception que d'une norme monstrueuse. Ce fantastique, le fantastique dont je parle, se définit en effet comme une enquête sur le réel, ou plus exactement sur ses détails. Qu'il s'agit, pour le regard fantastique, de rendre signifiant ou à défaut significatif. C'est ce que dit, parmi d'autres exemples, Edmond Picard dans un article qui s'appelle « Le fantastique réel ». Alors, il définit le fantastique réel par ce souci du détail, de l'observation, et il prend comme exemple cet exemple suivant, que je cite, « Deux petites taches rouges montent aux joues de mon ami. Qu'est-ce ? C'est étrange tout cela. Pénétrerai-je dans le monde invisible ? Non, c'est le réel. Mais le réel vu, senti en ces accidents énigmatiques avec intensité. » Le fantastique résiderait ainsi dans un art du détail et dans la capacité de l'observateur à le rendre éloquent. C'est le cas de Tourguenieff, pour Maupassant, qui est un conteur fantastique de premier ordre, pour Maupassant, parce que, je cite toujours Maupassant, « des faits très simples prennent parfois, en son esprit et en passant par ses lèvres, un caractère mystérieux, et parce qu'un simple détail, je cite toujours, devient plus inquiétant dans sa bouche que s'il eût dit quelque histoire terrible. » C'était déjà, selon Ernest Hello, dans un texte qui s'appelle « Du genre fantastique », qui date de 1859, c'était déjà, donc pour Ernest Hello, une manière de voir qui conférait aux contes d'Hoffmann leur dimension fantastique. Les récits purement naturels d'Hoffmann, selon lui, permettent de comprendre que, je le cite, « si le fantastique n'est pas toujours dans l'objet, il est toujours dans l'œil ». Il suppose et requiert, lui aussi, un regard perçant, capable de déceler la monstruosité des détails. Alors, ainsi que le rappelle Henri-Jacques Sticker dans l'ouvrage collectif d'Alain Corbin qui s'appelle « Histoire du corps », Henri-Jacques Sticker rappelle donc que cette monstruosité, au XIXe siècle, cesse d'être associée à l'infirmité, pour devenir, à l'instar de la folie, une anomalie significative de la norme. Je le cite. L'observation prouve qu'un monstre n'est pas monstre tout entier. Il y a de la régularité d'un côté et de l'irrégularité de l'autre. C'est la même position que celle adoptée par Pinel à propos de la folie. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire va jusqu'à se demander s'il faut conserver la catégorie de monstruosité, étant donné sa conception d'une échelle continue entre la normalité et les plus graves anormalités. Donc loin de risquer de disparaître, la monstruosité peut donc potentiellement, s'étendre et sourdre de la normalité corporelle, dont elle apparaît comme une variante spectaculaire. Devenue clinique, cette monstruosité est désormais intimement liée à la découverte d'une familiarité du pathologique et à la constatation fortuite et imprévue d'une similitude, là où le spectacle du monstre surnaturel laissait supposer une distinction. Le monstre, c'est l'autre. La nouvelle définition de la monstruosité au cours du XIXe siècle, en particulier à la fin du XIXe, montre que le monstre, ça n'est pas l'autre, c'est soi. Le fragment corporel joue dans cette perspective un rôle central. À l'image du pouce trop long de l'héroïne de Rachilde, la monstruosité est provoquée par un corps dont on perçoit subitement l'étrangeté et qui devient de ce fait matière à fantastique. C'est le sens de la nouvelle « Lanterne magique » de Jean Lorrain. Au narrateur qui oppose la science et le fantastique comme le savoir et le mystère, l'électricien Falster démontre que si le fantastique ne peut plus occuper le devant de la scène, puisque le dialogue a lieu durant l'entracte du sommeil de Faust, et le narrateur regrette le fantastique romantique, la pompe, le décor du fantastique de Faust, par exemple, le surnaturel, etc. Si le fantastique, donc, à la fin du siècle, ne peut plus occuper le devant de la scène, Faust, ce qui est joué, il est désormais, ce fantastique, à chercher dans la salle et dans un réel qu'il faut apprendre à voir et à redécouvrir. Je cite ce que dit l'électricien Falster. Fouiller un peu du bout de la lorgnette le clair-obscur de ses baignoires, ses narines vibrantes, ses pâleurs de linge, ses prunelles hallucinées, ses mains exsangues posées au rebord de la toile de velours rouge et tourmentant, nerveuses et fébriles, le flacon de sel ou l'éventail, ce sont les grandes dames mélomanes du monde, de la haute banque et de la sucrerie, toutes morphinées, cautérisées, dosées, droguées de romans psychothérapiques et d'éthers. Ce sont les possédés de la nouvelle et jeune aristocratie. En incitant le narrateur à fouiller un peu du bout de la lorgnette, Falster invite son contradicteur à lever le masque d'une réalité rassurante pour redécouvrir un fantastique perdu de vue. Alors, autre exemple, dans ses Histoires incroyables, Jules Lermina, donc les Histoires incroyables sont un recueil de nouvelles inspirées de Poe, Jules Lermina va également exploiter ce dévoilement avec beaucoup de perversité, en soulignant, par exemple, qu'il y a des hommes dont le regard sonne faux. C'est une citation. Autre citation, il va dire que le visage qui ne dit rien parle en dedans. Alors pour faire, dans ces nouvelles, finalement converger le regard de l'anatomiste, le regard perçant, et celui de l'aliéné, en particulier dans une nouvelle qui s'appelle Les Fous, justement pour créer cette familiarité avec le monstre et cette familiarité ou cette confusion entre normal et pathologique. La capacité toute physiognomonique de transformer le visage en alphabet, selon une expression de l'avatar, transformer le visage en alphabet, cette capacité aboutit même, dans la nouvelle Les Fous, à une véritable trépanation, le regard perçant du narrateur étant pris dans son sens littéral. Le narrateur, qui est obsédé par le secret de son solliciteur Golding, en vient, je cite, à faire sauter ce couvercle qui ferme son cerveau, afin de lire dans Golding comme dans un livre ouvert. Dans son cerveau, mais littéralement. Il y découvre alors l'explication du mystère qu'il cherchait dans, je cite, ses fibres palpitantes, dans la dernière convulsion de ce cerveau qui se désorganise, qui se désagrège. Autre exemple, dans le roman L'inconnu de Paul Hervieux, plutôt catalogué naturaliste, Paul Hervieux assimile également ce qu'il appelle la ferveur idolâtre pour la physiognomonie de l'aliéné anonyme du titre. L'inconnu, ça renvoie à plusieurs choses, mais c'est en premier lieu le personnage inconnu qui est incarcéré, et un journaliste va s'intéresser à ce cas pour savoir s'il est réellement fou ou si c'est un internement abusif. Donc cet inconnu, il va lire son journal intime, et cet inconnu est donc fasciné par la physiognomonie. Et Paul Hervieux va assimiler donc cette ferveur idolâtre pour la physiognomonie à une forme de folie du déchiffrement. Le narrateur est particulièrement fasciné par ce qu'il appelle l'M du rictus sardonique de l'étudiant en médecine Corail, pourtant bien dangereux. Il est fasciné par cette M, à tel point qu'il va s'évertuer à le provoquer, bien que ce M marque, je cite toujours, un retour atavique à une grimace primitive, alors que nos ancêtres devaient employer leur mâchoire comme arme d'attaque ou de défense. Donc ce M, c'est une sorte de grognement ou de retroussage de babine dangereux. Donc la fascination pour le détail ou pour le fragment corporel ne relève pas dans ces textes fantastiques du fétichisme érotique. Mais cette fascination pour le détail repose sur le même déraillement du fonctionnement métonymique. La partie ne renvoie plus au tout, mais dissonne et aboutit à une forme d'autonomisation monstrueuse qui rend impossible toute analyse véritable. La nouvelle intitulée « L'autopsie », écrite par le médecin Henri-Étienne Bonis, sous le pseudonyme de Paul Abord, cette nouvelle intitulée « L'autopsie » est à cet égard révélatrice de la manière dont le regard de l'anatomiste peut produire un effet fantastique dès lors que le fragment corporel échappe à l'appréhension rationnelle pour parler à l'imagination. Alors dans ce conte physiologique, c'est le titre du recueil dans lequel il y a donc cette nouvelle l'autopsie, dans ce conte physiologique, un docteur prend la parole après un combat farouche mené dans la province d'Oran pour expliquer aux militaires ce qu'est, je le cite, la vraie peur, celle qui vous fait trembler de la tête aux pieds et vous couvre d'une sueur glacée comme une sueur d'agonie. Alors ce médecin qui a été confronté à une terrible épidémie raconte comment il s'est résolu à pratiquer une autopsie sans respecter les délais légaux de 24 heures afin de pouvoir étudier le microbe avant la détérioration des tissus. Je cite, « L'incision faite, je laissai mon scalpel et introduisis la main droite par la plaie, tandis que ma main gauche reposait machinalement sur l'avant-bras du sujet. À peine avais-je plongé la main dans le ventre pour extraire la rate que je ressentis une impression de chaleur humide, comme si j'avais plongé ma main dans l'eau chaude. Et cette pensée me sauta à l'esprit. S'il n'était pas mort. À ce moment, ma main gauche fut brusquement repoussée et mon poignet droit saisi par des doigts qui le serraient à le briser. Ce fut une minute terrible. Je frissonnais de la tête aux pieds. Mes cheveux se hérissaient. Une sueur glacée couvrait mon front et mes tempes. Mes jambes tremblaient sous moi. Mon cœur s'arrêta un instant et je crus que j'allais perdre connaissance. Alors finalement, le sommeil léthargique, ce cas de mort apparente hein, qui est aussi un grand motif du fantastique, ce sommeil léthargique est finalement évacué au profit d'une simple contraction des muscles après la mort, telle qu'on la voit parfois dans le choléra. Ça, c'est une épidémie de choléra qui est diagnostique. La peur ressentie a néanmoins trouvé à s'incarner dans la topographie nouvelle, pour reprendre l'expression de Raphaël Mondrécy, la topographie nouvelle d'un corps dont l'analyse n'est plus le vecteur de la compréhension. Elle consomme à l'inverse une forme de dissociation du sujet analysant. Le docteur dit « mon cœur s'arrêta un instant » par un pervers effet de retour. Le début du siècle, pour conclure, donc, voyait dans l'analyse un moyen d'accès vers la synthèse, à l'image des vastes entreprises nosographiques de Pinel et d'Esquirol, élaborées à partir de l'histoire naturelle. C'était le grand modèle pour la nosographie. L'analyse du fragment, que ce soit le fossile, l'os de la mâchoire, mentionné par Cuvier, l'analyse du fragment permettait de déduire l'ensemble organique, comme le vêtement était pour Balzac, tout un monde, par exemple, à l'image de la jupe de Madame Vauquer ou du Spencer de l'homme empire qu'est le cousin Ponce. Le fragment est tout un monde. Du fragment, on reconstruit le tout. À la fin du siècle, à l'inverse, la fin du siècle autonomise le fragment et met l'analyse en crise en soulignant son pouvoir morbide de déliaison. L'herméneutique du corps fragmentaire change alors radicalement de finalité. L'explication morcelle au lieu de rassembler et n'est plus que la figure d'un déploiement empêchant la compréhension. Le regard de l'anatomiste rejoint donc, de ce point de vue, l'optique même de la décadence, dont le style, selon Paul Bourget, prône la décomposition. Je vous remercie.